Radio Kapi.
Le journal, grâce à Hamzati à la présentation.
Le 38e sommet annuel de l'Union africaine s'ouvre ce soir à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. C'est la première ministre Judith Suminwa qui représente le président Félix Tshisekedi à cette réunion du Conseil des paix et des sécurités de l'Union africaine qui abordera la situation sécuritaire en RDC. La responsable de l'UNICEF en RDC s'est dit préoccupée par les violences commises contre les femmes et les enfants au cours des deux dernières semaines dans l'est du pays. Catherine Roussel exhorte ainsi les parties au conflit à cesser et à empêcher sans délai les violations graves des droits des enfants, des précisions dans ce journal. L'invité de la rédaction ce soir est le professeur Jean-Pierre Ilboudo, ancien représentant de l'UNESCO en RDC et enseignant des cours sur la pratique de la radio. Il revient sur la journée mondiale de la radio célébrée le jeudi 13 février sous le thème « Radio et changement climatique ». D'abord cette information, la tension était à son comble en début d'après-midi ce vendredi après l'annonce de la chute de l'aéroport et la cité de Kavumu au sud Kivu. Sous le choc, les habitants désemparés s'est dispersés dans tous les sens. L'inquiétude a redoublé lorsque la population a vu les militaires quitter massivement la ville de Bukavu sans indication de leur destination. Des tirs sporadiques retentissaient dans tous les coins de la ville, notamment en Nguba, une zone proche de la frontière avec le Rwanda. À Bukavu, une ville plongée dans la panique, nul ne pouvait identifier l'origine exacte des détonations. Mesdames et messieurs, bonsoir. La première ministre Judith Suminwa Tuluka séjourne à Addis Abeba en Éthiopie pour le 38e sommet annuel de l'Union africaine. Représentant le président de la République, et il participera à la réunion cruciale du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui abordera les crises sécuritaires en RDC et au Soudan. Ce conseil qui débute ce soir est d'une importance capitale face à la situation sécuritaire et humanitaire tragique en RDC. Blaise Makassi.
C'est dans ce contexte difficile que Judith Suminwa se prépare à prendre la parole au nom du chef de l'État pour mettre en exergue les attentes précises de son pays. Selon une dépêche de la primature, la RDC va exiger le retrait immédiat des troupes rwandaises de son territoire, dénoncer des violations de son intégrité territoriale et insister sur l'instauration d'un cessez-le-feu durable. La chef du gouvernement devra aussi rappeler les conséquences désastreuses de l'agression rwandaise. Plus de 3000 vies ont été perdues et des milliers de blessés à Goma témoignent de l'urgence de la situation. La situation sécuritaire, sanitaire et humanitaire en RDC s'est détériorée ces derniers mois, notamment dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, où les M23 ont équipé la ville de Goma et certaines localités. L'escalade de la violence depuis le début de l'année 2025 a forcé le déplacement de plus de 400 000 personnes, provoquant des milliers de morts et des violations des droits humains. Les responsabilités des nations devront quitter le statut des simples promesses pour se muer en actions concrètes, car l'avenir de la RDC, indique la primature, et partant de la sous-région des Grands Lacs, dépend de cet engagement commun.
Merci à vous, Blaise Makassi. L'attaque du M23 soutenue par l'armée rwandaise à Goma a mis à rude épreuve le système sanitaire congolais. C'est ce qu'a affirmé hier le ministre de la Santé, Roger Kamba, au cours d'une conférence de presse animée ici à Kinshasa. Selon lui, 458 corps ont été enterrés en 5 jours alors que 939 sont encore dans les morgues. L'inhumation des victimes est compliquée par la paralysie de l'administration locale. Il dénonce également le fait que des infrastructures sanitaires soient ciblées, notamment l'attaque des 3 centres de traitement de la variole des singes. Roger Kamba revient sur les défis auxquels font face les professionnels de la santé à Goma. Il est dit dans cet extrait choisi par Blaise Makassi.
Un défi majeur que nous avons, c'est les prestataires, les médecins qui peuvent opérer, qui peuvent travailler là-bas. Et donc la négociation maintenant, c'est comment envoyer nos médecins, comment envoyer nos infirmières pour qu'ils aillent travailler sur place. Nous avons demandé donc que le couloir humanitaire, aussi bien pour les intrants, pour les équipements, pour le personnel, soit garanti. Au niveau de la ville, l'insalubrité et le nombre de corps en décomposition encore ne permet pas que nous puissions vraiment parler d'hygiène, parce que nous avons déjà, malheureusement, le choléra qui a commencé. Et la semaine dernière, on avait déjà plus de 98 cas de choléra, qui veut dire que le risque épidémiologique est très important. Donc, en gros, nous avons un accroissement du nombre de blessés. Rien que la semaine du 5 au 10, nous avons eu plus de 128 nouveaux cas de blessés, qui amène à plus de 4260 le total, et donc la situation reste préoccupante.
Pendant ce temps à Beni, au nord Kivu, toutes les activités sont paralysées ce vendredi. Les habitants ont répondu ainsi à l'appel de la synergie locale des mouvements citoyens et des groupes de pression pour une journée sans activité. C'est pour dénoncer non seulement l'agression de la RDC par les Rwandais, mais aussi protester contre le meurtre à Goma d'un enfant du terroir, à savoir l'artiste et musicien Idengo Delcat, indiquent les organisateurs. Un dispositif sécuritaire important a été mis en place dans la ville. C'est ce que nous dit Marc Marofimbo.
Ce vendredi, toutes les activités sont suspendues à Beni. Boutiques, maisons de commerce et banques sont restées fermées. Plusieurs établissements scolaires ont également fermé leurs portes et les parents ont gardé leurs enfants à la maison. La veille, la synergie des mouvements citoyens et des groupes de pression de Beni avait appelé à une journée ville morte pour dénoncer l'agression de la RDC par les Rwandais à travers le M23. Ils ont également demandé au FRDC de lancer des offensives contre ces rebelles afin de reconquérir les entités occupées. Jeudi soir, une manifestation spontanée a été organisée par des jeunes pour protester contre l'assassinat de l'artiste musicien Idengo Delcat à Goma. Des pneus ont été brûlés et des étalages des revendeurs de carburant ainsi que des cabines de vente de crédits cellulaires situées le long des routes ont été endommagées. Des coups de feu ont même résonné en soirée lors des altercations entre des jeunes manifestants et les forces de sécurité qui tentaient de rétablir l'ordre. Le maire de la ville de Beni a appelé les jeunes à rester calmes et à éviter toute forme de vandalisme qui pourrait perturber les activités socio-économiques de la ville. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Parlons toujours de l'assassinat de l'artiste Katembo Vinwasiki Delphin alias Delcat Idengo, c'est jeudi à Goma, qui suscite justement des vives réactions. Connu pour ses critiques acerbes envers la gouvernance politique du pays, ce jeune homme d'une vingtaine d'années a été abattu en plein jour près de son domicile en Gangi 3, groupement Munigi, territoire de Nyiragongo. Quel a été son parcours en tant que révolutionnaire? Sifa Magoro.
C'est un extrait sonore d'une chanson de nombreuses productions de cet artiste intitulé Ami de la liberté, tout comme politicien et d'autres. Son assassinat intervient après sa toute dernière chanson, Libellé, Bunduki za Kwetu, qui venait de paraître il y a quelques jours sur la toile. Dans ce titre, l'artiste dénonce la guerre et s'attaque directement aux rebelles en disant, je cite, Jambo Avamizi, Mumetufanya Wakimbizi, Najua Mutaishi Aha. Pas. Entendez, bonjour les agresseurs, vous avez fait de nous des déplacés. Je sais que vous avez peur de nous et vous finirez dans cette ville. Fin de citation. Pour l'instant, les circonstances de sa mort ainsi que l'endroit où repose son corps ne sont pour le moment pas connues. Pour autant, plusieurs versions circulent. Pour rappel, cet artiste a plusieurs fois été emprisonné et condamné par la justice pour ses positions délicates. Delcato avait bénéficié de la grâce présidentielle avant la tenue des élections du 20 décembre, avant d'être arrêté et condamné à nouveau. Il a quitté la prison centrale de Mounzenze le 27 janvier lors de l'évasion massive de la prison.
Merci Sifa Magourou. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, exhorte les députés à garder leur calme face à la médiation des évêques de la CENCO et de l'ECC auprès des partis impliqués dans la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Il a lancé cet appel lors de la plénière de ce jeudi 13 février. Voici un extrait de son discours.
Cette question des évêques qui se retrouvent à Goma à la recherche de la paix, laissons cette question au niveau du président de la République et le gouvernement. Puisque vous allez parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Laissons cette question à ce niveau-là. Et moi, votre président du bureau de l'Assemblée nationale, je poserai la question au gouvernement pour savoir qu'est-ce qu'il en est au juste. Puisque ici, nous risquons de verser dans des débats. Vous savez que si vous voulez avoir la paix, la première chose que vous devez chasser, c'est l'émotion. Nous, nous voulons la paix. Les gens qui sont à Goma, là-bas, occupés maintenant, dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, veulent la paix et ils nous suivent. Il ne faut pas que par nos déclarations, à un moment donné, nous soyons en déphasage avec la base.
Nous l'avons dit au sommaire, la directrice générale de l'UNICEF exprime une profonde préoccupation face aux violences infligées aux femmes et aux enfants dans l'est de la RDC au cours des deux dernières semaines. Dans un communiqué publié ce jeudi, elle révèle que les violences survenues entre le 27 janvier et le 2 février ont causé des dégâts considérables. Le nombre des victimes des violences sexuelles accueillies dans 42 centres de santé a quintuplé. Ronéline Thibonera nous en parle.
Catherine Russell se base sur les données fournies par ses partenaires. Elle met en exergue des violations commises contre les femmes et les enfants par les belligérants, notamment par des viols et d'autres formes de violences sexuelles. Les exactions atteignent des niveaux jamais connus ces dernières années. Conséquence, les structures médicales sont incapables à assurer la prise en charge des victimes d'agressions sexuelles en raison du manque de médicaments pour éviter la contamination au VIH. Je suis extrêmement préoccupé par l'intensification de la violence dans l'est de la République démocratique du Congo et par les conséquences de cette situation sur les enfants et les familles dont le Provence du Nord Kivu et du Sud Kivu indique la directrice de l'UNICEF. De plus, les zones rurales font l'objet d'attaques et de bombardements. Les déplacés ont été contraints de quitter les camps. La situation s'est aggravée en raison du recrutement des enfants par les milices locales. L'UNICEF invite fermement les acteurs au conflit à mettre un terme à ces pratiques. Les parties au conflit doivent cesser et empêcher sans délai le viol grave des droits des enfants et prendre de mesures concrètes pour protéger les civils et les infrastructures vitales conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, indiquent les documents. Au cours des deux dernières semaines, l'UNICEF annonce avoir recensé plus de 1100 enfants non accompagnés dans les Kivu, en chiffres qui risquent d'être revus à la hausse.
Par ailleurs, les prestataires des soins de santé du centre de traitement des Mpox à l'hôpital général de référence de Makiso à Kisangani expriment leur mécontentement en raison du non-paiement de leur prime de prestation. Le projet de MSF qui assurait leur rémunération a pris fin en décembre dernier. Le nouveau projet de l'UNICEF ne couvre que l'aspect nutritionnel des patients et de leurs accompagnateurs, laissant le personnel soignant sans soutien financier. Ils se sentent abandonnés à leur sort. Le point avec Jacques Mkonkole.
La prime de service offerte par MSF aux prestataires des soins a pris fin en décembre dernier, période de l'expiration du projet de cette ONG internationale sanitaire dans ce centre de traitement. Les prestataires des soins ne savent plus comment survivre, d'où ce cri d'alarme de l'un d'eux.
Les personnels sont démotivés, c'est comme si nous sommes marginalisés, nous sommes délaissés. Nous demandons que les autorités puissent venir en aide, surtout pour ceux qui travaillent, parce que nous sommes exposés.
Le chargé des opérations pour la réponse des épidémies sanitaires à la Division provinciale de la santé les appelle au calme, puisque selon le docteur Franck Mébois, les démarches sont en cours auprès d'autres partenaires.
Nous sommes en train de frapper chez les partenaires s'ils peuvent nous appuyer par rapport à ça. Il y a des lueurs d'espoir par rapport à la prise en charge des prestataires, qu'ils gardent leur calme. Ce sont des démarches qu'on doit entreprendre et ça ne peut pas prendre un jour, deux jours, ça va prendre toujours des mois.
Sachez que ce centre de traitement des maladies à Mpox accueille actuellement une centaine de malades. Depuis 4 mois, il a enregistré 5 décès. Le dernier cas date de ce vendredi 14 février. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Cette autre nouvelle, la Direction générale des impôts rappelle aux employeurs redevables de l'IPR et de l'IR qu'ils doivent impérativement souscrire au plus tard le 15 février une déclaration récapitulative annuelle pour l'année 2024. Cette déclaration, incluant tous les éléments imposables, doit être accompagnée du paiement de tout complément d'impôt éventuel. Étant donné que cette date tombe un samedi, la date limite est reportée au lundi 17 février. Pourquoi cette démarche est-elle cruciale pour l'administration fiscale et les employeurs malgré les déclarations mensuelles? Mac Makadi, chef de bureau à la division des communications de la DGI, répond au micro de Jocelyne Moussa Oponde.
Chaque mois, il est fait. Mais la loi a voulu aussi qu'au 15 février de l'année qui suit, il puisse souscrire une déclaration récapitulative. La déclaration récapitulative va amener l'employeur à pouvoir récapituler tout ce qu'il avait fait au mois par mois. Ça peut arriver que pendant le mois, il avait eu à souscrire une déclaration minorée et que lui-même trouve qu'il y a un supplément que je devais payer au cours d'un mois. C'est lors de la souscription de la déclaration récapitulative au 15 février que la loi a donné la latitude à l'employeur de pouvoir apporter les correctifs. Lorsqu'il vient souscrire la déclaration récapitulative, par ricochet, il profite de ces déclarations récapitulatives pour s'acquitter d'un supplément éventuel que lui-même aurait constaté.
Actualité internationale.
Qui est pour succéder au Tchadien Moussa Faki Mahamat au poste de président de la Commission de l'Union africaine, c'est l'un des enjeux du sommet annuel des chefs d'État de l'organisation continentale qui a lieu à Addis Abeba. Trois candidats sont en lice, le Kenyan Raila Odinga, le Malgache Richard Randriamandrato et le Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf. À la veille du vote prévu demain samedi, les trois candidats continuent de battre campagne.
L'invité.
Le monde a célébré ce 13 février la journée mondiale de la radio sous le thème Radio et changement climatique. Jean-Pierre Ilboudo, ancien représentant de l'UNESCO en RDC et enseignant en pratique radiophonique, souligne l'importance pour les professionnels de la radio de se former et de s'adapter aux évolutions numériques. Il est notre invité et s'entretient avec François Kadima.
Professeur Jean-Pierre Ilboudo, bonjour.
Bonjour.
Quel rôle la radio joue dans ce monde en mutation?
Disons que la radio a un rôle crucial. C'est un agent important de sensibilisation et d'information sur le changement climatique et les questions environnementales. Parce que, voyez-vous, on a trop sous-estimé la question des gaz à effet de serre. On a sous-estimé toute la pollution que l'homme fait, la déforestation. Et aujourd'hui, les températures sont montées. Dans le monde, on est dans une situation tellement grave. Les températures sont tellement montées qu'on a des inondations de gauche à droite, chaque année, mais en Europe. Les glaciers sont en train de fondre, la mer est en train de monter, de ravager même des villages, et des feux de brousse partout, des incendies. Alors, vous savez, la Californie, tout ça, c'est des questions qu'on aurait dû régler depuis. Mais quel est l'outil le plus accessible, le moyen qui permet à un citoyen lambda, commun des mortels, je ne parle pas de ceux qui ont les moyens d'avoir la télé, qui ont l'électricité, mais ceux-là qui sont partout dans les coins isolés, et marginalisés, qui sont la majorité des gens dans ce monde, ben c'est la radio. C'est pourquoi il faut que on puisse renforcer la capacité des gens qui font la radio, qu'on puisse leur donner les moyens matériels importants pour qu'ils puissent faire une couverture sur la question du changement climatique, mais surtout qu'on puisse aussi les former sur le contenu de du changement climatique.
Ancien représentant de l'UNESCO, enseignant et professionnel de la radio, est-il important de célébrer la journée de la radio à ce moment où la technologie a évolué avec toutes les nouvelles plateformes qui font circuler l'information?
En 2012, lorsque l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé qu'on va fêter la journée de la radio, l'UNESCO avait déjà en 2011 fait la soumission de la résolution par rapport à ça. Si l'ensemble des pays membres des Nations Unies a décidé donc qu'il fallait fêter la radio, c'est que la radio est un outil très important. Mais n'oubliez pas qu'il y a eu beaucoup de prophéties sur la radio, sur l'imprimé. McLuhan disait que la galaxie Marconi, radio, tout ce qui est nouvelle technologie, va phagocyter l'imprimé et l'écriture. Mais c'est pas vrai. On voit qu'aujourd'hui, ça continue, c'est des trucs complémentaires. Mais c'est que les ingénieurs aussi, les techniciens ne sont pas dupes. Ils ont profité des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ils ont profité du digital. Ils ont fait en sorte que la radio devienne quelque chose de plus spécial avec l'apport du digital. On fait le webcast. Est-ce qu'on parlait de webcast avant? On peut écouter radio du cas ici, à Washington. Parce qu'on a mis un truc de webcast. Donc, ça veut dire que les nouvelles technologies ne sont pas venues faire en sorte que la radio disparaisse ou la mettre en difficulté. Elles sont venues pour renforcer même sa capacité. Et je crois qu'aujourd'hui, la radio profite très bien du digital et du numérique.
Vous pensez qu'elle s'adapte réellement aux exigences actuelles avec la nouvelle technologie? Si ce n'est pas ça, qu'est-ce qui doit être fait?
Si ce n'est pas ça, rien ne peut être fait, parce que regardez un peu l'archéologie de la radio. Ça a commencé avant 1920. Déjà dans les années 1800, au 19e siècle, il y avait des chercheurs comme les Popov, comme les Henry Hertz, qui ont fait le faisceau hertzien, et d'autres de plusieurs pays qui ont contribué à amener tout ça. Et aujourd'hui, on était à l'analogique. On avait les zones courtes, on avait les zones moyennes. Maintenant, on a un confort d'écoute extraordinaire avec la FM. Donc, ça veut dire qu'il y a une progression. La radio est une technologie qui va continuer de progresser. On ne peut pas croire que la radio va rester statique, parce que on continue de réfléchir sur comment faire pour que cette technologie-là, qui est la plus accessible, je dis bien la plus accessible par rapport à l'ensemble des autres médias, reste valable et disponible pour la majorité des populations.
Partons de réalité en RDC, quels sont les éléments qui peuvent être pris en compte par les praticiens de la radio pour améliorer l'offre médiatique?
Moi, je crois que là, c'est la formation. Il faut renforcer les capacités des gens. Il faut les informations initiales, certes, mais il faut le recyclage régulièrement. Il faut qu'ils soient au courant, j'allais dire, des nouvelles découvertes relative à la radio, et il faut également qu'il reste aussi sur les principes de l'équité, de la déontologie, de l'éthique. C'est-à-dire que on travaille sur les faits, on les triangule, on vérifie les sources.
Professeur Jean-Paul Ilboudon, nous vous disons merci.
Je vous remercie aussi.
Notre invité répondait aux questions de François Kadima. Ainsi s'achève ce journal, coordonné par Gisèle Cage et Jude Mystère Bilanda, et mis en onde par Billy Landry Betou. Grâce à Mzati, c'était la présentation. Ce journal est à réécouter sur www.radiocapi.net. Suivez-nous également sur notre chaîne WhatsApp, dont les liens se trouvent sur nos plateformes numériques, notamment X et Facebook. Merci et bonne suite des programmes avec Stanislas Richardiou.